Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Au sommaire cette semaine, un drame qui nous dépasse tous, celui de l'immigration clandestine. Que ce soit aux frontières de l'Europe ou des États-Unis, la politique du tout répressif n'est ni souhaitable ni réaliste. Poussée par la pauvreté, des dizaines de milliers d'Africains, mais aussi de Latinos et d'Asiatiques, continueront à vouloir encore tout risquer pour un hypothétique Eldorado, quitte même à y laisser la vie. Qu'on se le dise, le problème est mondial. Si les regards sont focalisés ces derniers temps sur l'Espagne et le Maroc, la question se pose aussi en d'autres endroits de la planète. Ainsi, la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique, pourtant l'une des plus militarisées, ne dissuade pas les immigrants. Des chiffres récemment publiés parlent de plus d'1 100 000 immigrants illégaux appréhendés depuis octobre 2004 par la police des frontières américaines. Et sur cette même année, quelques 230 immigrants ont péri lors d'une tentative de passage, victimes de la chaleur et de la soif du désert de l'Arizona. Une réalité qui ressemble, de manière troublante, aux immigrants africains retrouvés ces derniers jours dans le désert marocain à la frontière algérienne. Pour Bernard Girard, philosophe et sociologue, l'exemple américain copié par l'Europe est révélateur du malaise, de l'hypocrisie qui entoure cette question.
Ce qui se passe aujourd'hui à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça fait 3-4 ans, 2-3 ans que c'est comme ça, est directement lié à la politique mise en place par l'administration Bush. Hein, mais ça avait un petit peu commencé avec l'administration Clinton, qui consiste à fermer la frontière, qui consiste à construire des murs, à rendre beaucoup plus difficile le passage. Beaucoup plus difficile le passage, mais pas impossible, puisque vous savez que c'est une frontière extrêmement longue. Et on utilise là tout un ensemble de techniques policières, techniques quasi-militaires. D'ailleurs, quand on lit les textes des organismes qui travaillent sur ce sujet-là, on voit qu'ils s'inspirent directement de ce qui avait été inventé par l'armée américaine au Vietnam. On est dans quelque chose de très, très particulier et qui consiste, au fond, si vous voulez, c'est un petit peu... On trouve un peu la même chose en Israël. Hein. On fait des murs, on fait des barrages. Mais comme la frontière, à l'inverse de ce qui se passe en Israël, la frontière est extrêmement longue, on n'arrive pas à empêcher tous les mouvements. Les mouvements se déplacent, les gens vont dans des régions, dans des endroits de passage où c'est beaucoup plus compliqué, d'où beaucoup plus de dangers, de risques, d'accidents et de morts. Beaucoup de gens meurent de soif, par exemple, parce qu'ils sont obligés de traverser des déserts. Et aussi, il faut le dire, beaucoup des passages beaucoup, beaucoup plus chers. On peut dire qu'en l'espace de 3-4 ans, le prix du passage entre le Mexique et les États-Unis a été multiplié par 10. Il y a quelques années, il fallait dépenser en gros $150, c'est-à-dire à peu près l'équivalent en euros. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de $1 500. Ce qui est, entre parenthèses, relativement peu. Quand vous voulez venir de Chine pour aller aux États-Unis, on est dans des ratios 10 fois supérieurs encore, hein. On est de l'ordre de 15 000 dollars.
À première vue, la politique américaine en la matière est très claire, à savoir fermer la frontière, mais est-ce que c'est aussi clair que cela, en tout cas pour l'économie de cette région, d'un côté comme de l'autre?
Oui, alors là, vous posez une question qui est tout à fait pertinente. Quand on essaie de corréler, si vous voulez, le dynamisme des services d'immigration, et les économies locales, on s'aperçoit que les services de l'immigration sont d'autant plus efficaces, d'autant plus actifs que l'économie locale, du côté américain de la frontière, est plus médiocre. Quand tout va très bien, que les industriels locaux ont besoin de personnel, alors manifestement on laisse plus facilement passer les gens. Par contre, lorsque la situation est un petit peu plus difficile, eh bien à ce moment-là, on est plus sévère sur les passages. Mais le chiffre que vous citiez tout à l'heure d'un peu plus d'un million de clandestins interpellés veut dire qu'il y a un véritable appel d'air, il y a un véritable besoin de main-d'œuvre mexicaine aux États-Unis que les États-Unis ne savent pas satisfaire avec leurs propres ressortissants. C'est là le cœur des choses. L'économie américaine dans cette partie des États-Unis a besoin de main-d'œuvre bon marché, serviable et corvéable à merci, dans l'agriculture, dans un certain nombre d'ateliers qu'on appelle des sweatshops, enfin, qui sont des espèces d'ateliers extrêmement brutaux et dans lesquels les conditions de travail sont très difficiles.
Alors, est-ce qu'il y a des accords qui ont été pris entre les deux pays pour essayer de régler cette question, ou est-ce que c'est toujours une pierre d'achoppement lors des rencontres au sommet?
Alors, il y a effectivement des accords, c'est effectivement une pierre d'achoppement, mais il faut bien voir qu'on est dans des systèmes, si vous voulez, où fonctionne de manière totalement illégale. C'est-à-dire que le gouvernement mexicain n'est pas plus en mesure que le gouvernement américain d'empêcher les départs, parce que la frontière, elle est la même des deux côtés. Il faudrait mettre une frontière, des barrages des deux côtés. Il faut savoir que le NIS, qui est l'institution américaine, le service, si vous voulez, qui garde les frontières des États-Unis, qui s'occupe de l'immigration et de la naturalisation, emploie 11 000 personnes aux États-Unis. Soit à peu près, alors c'est une chose qu'on ignore, mais autant que le FBI. C'est une énorme administration. Alors vous imaginez bien que le gouvernement mexicain n'a pas tellement de motif de créer une administration de ce type pour empêcher les gens de partir de chez lui. J'ajoute d'ailleurs que paradoxalement, pour que des pays d'émigration créent des institutions qui empêcheraient les gens de partir, ce ne serait possible que si les frontières étaient complètement ouvertes et si elles pouvaient craindre le départ massif de travailleurs dont elles ont besoin. Mais dès lors que ce n'est pas le cas, dès lors que ces immigrés qui vont quitter le Mexique pour aller aux États-Unis vont réduire le chômage du Mexique, on ne voit pas bien pourquoi l'administration mexicaine ferait de grands efforts. Alors là, elle peut dire qu'elle en fait, mais en réalité, rien ne l'y incite vraiment.
Cette question de l'immigration est revenue à la surface. Est-ce qu'elle est bien posée selon vous ?
Moi, je crois qu'elle est très très mal posée. Je crois qu'elle est très très mal posée parce qu'on fait l'hypothèse qu'il faut fermer les frontières et que c'est en fermant les frontières qu'on régulera le mieux les flux de migration. Or, je crois que c'est tout le contraire. Qu'il faudrait au contraire alléger, laisser circuler librement les gens, tout comme on laisse librement circuler les marchandises, et que si on laissait librement circuler les individus, à ce moment-là, la régulation se ferait très naturellement et probablement de manière plus satisfaisante. L'un des effets paradoxaux des mesures prises par les Américains quand ils ont bloqué la frontière avec le Mexique est que les Mexicains installés illégalement aux États-Unis sont retournés moins souvent au Mexique. Traditionnellement, les travailleurs immigrés qui étaient sans papiers, sous les Mexicains installés aux États-Unis, rentraient chez eux pour Noël. Ils retournaient voir leur famille. Comme le passage coûtait peu cher, $150, ils faisaient un petit peu d'économie, et puis ils s'en arrangeaient. Quand aujourd'hui le passage coûte $1,500, évidemment, ils ne peuvent plus faire des économies. Donc ils ne partent plus, donc ils restent, si vous voulez, ils se sédentarisent. Ce qui veut dire que si la situation économique se détériore en Californie et qu'ils n'ont plus de travail, ils y resteront. Alors qu'autrement, si les frontières étaient allégées, eh bien, ils retourneraient plus facilement chez eux. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes. Alors c'est vrai, la frontière mexicaine, c'est naturellement tout à fait vrai chez nous.
Qu'est-ce qui vous semble intéressant encore à dire sur ce sujet qui finalement est un sujet sans fin, hein, je dirais, c'est vraiment...
C'est un sujet sans fin. Je crois que ce qu'il faut dire, si vous voulez, ce qu'il faudrait dire, ce qui serait important, c'est qu'il faudrait que l'on insiste plus, que l'on axe plus sa réflexion sur les effets contre-productifs ou pervers de toutes les politiques que l'on mène actuellement. Je vais vous donner un autre exemple. On s'est rendu compte que, tout à l'heure je vous donnais le chiffre de 15-20 000 dollars, qui était le prix du passage pour des Chinois qui veulent aller aux États-Unis. C'est considérable, ça crée naturellement tout un business hein, autour de mafias, autour de gangs, autour de groupes de gens qui organisent ces passages, et en même temps ça modifie complètement le marché, c'est-à-dire que des gens qui peuvent avoir quelques centaines de dollars pour passer la frontière et aller travailler à l'étranger n'ont pas des milliers de dollars. Et du coup, ils sont obligés d'emprunter de l'argent. À qui vont-ils emprunter de l'argent, alors que ce sont en général des gens pas très riches? Ils vont les emprunter aux passeurs. Lesquels passeurs vont en fait se rémunérer en vendant les personnes qu'ils amènent à des entreprises aux États-Unis. Je ne sais pas si ça se fait en Europe. Enfin, en tout cas, ça se fait aux États-Unis. Donc, vous êtes aujourd'hui aux États-Unis avec des gens qui sont non pas tout à fait des esclaves, mais des semi-esclaves ou des serfs qui ont en fait acheté leur passage, qui ont emprunté aux passeurs, c'est-à-dire in fine à leur employeur, de l'argent pour payer le passage et qui doivent travailler dans des conditions abominables jusqu'à ce qu'ils aient remboursé le passage. Vous voyez ? Donc, on est vraiment avec des politiques que l'on ne regarde que du point de vue des résultats des policiers qui arrêtent des gens qui passent la frontière, mais dont on ne regarde pas les effets de manière plus générale, qui sont de création de mafias et création de populations de semi-esclaves, ce qui n'est évidemment satisfaisant pour absolument personne.
Et donc, en guise de conclusion, on peut dire qu'il y a une nouvelle philosophie peut-être à avoir sur cette question très délicate.
Effectivement, les politiques de l'immigration devraient être retourner, si vous voulez, et que l'on devrait s'interroger sur les bienfaits que nous amèneraient des systèmes qui nous permettraient de faciliter les mouvements, les flux, enfin de laisser la régulation des flux se faire naturellement, spontanément. Les gens viennent parce qu'ils cherchent du travail, s'ils en trouvent, ils restent, s'ils ne trouvent pas, ben, ils vont ailleurs ou ils rentrent chez eux. Et de cette manière-là, on aurait probablement une question de l'immigration qui perdrait de sa gravité et de son côté effrayant.
Si vous voulez en tout cas approfondir ce sujet, aux éditions Les Points sur les i, Bernard Girard a publié Plaidoyer pour l'immigration. Et revenons à présent à l'Europe et l'Afrique. Il faudra bien qu'un jour, tout le monde se mette autour d'une table pour mener une importante réflexion sur les thèmes de l'immigration et du développement, pour travailler en amont et attaquer les problèmes à leur base, et non pas colmater la question sur fond de psychose et de protectionnisme. Car si tout le monde est pour la libre circulation des idées et des marchandises, dès qu'il s'agit des hommes, plus rien ne va. Le spectre de l'invasion barbare est brandi, comme nous l'explique Mehdi Lalou, professeur à l'Institut de statistique de Rabat au Maroc.
On est en train de maximiser les chiffres et de faire apparaître une espèce de psychose d'invasion, aussi bien entre la Libye et l'Italie qu'entre le Maroc et l'Espagne, qu'entre l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Parce que le nombre d'arrestations qui sont effectuées annuellement, et je pense du côté des statistiques espagnoles qui recoupent les statistiques marocaines, grosso modo, on peut avoir une certaine confiance. Ces arrestations concernent presque quasiment l'ensemble des migrants qui passent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire du Maroc vers l'Espagne. Cela concerne à peu près 18-19 000 personnes. Et par ailleurs, on sait que dans les statistiques espagnoles officielles, il y a moins de 15% des migrants irréguliers qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire espagnol qui viennent par la mer, c'est-à-dire qui viennent soit à partir des îles Canaries, soit par l'Espagne continentale. Et puis, lorsque les Marocains parlent d'arrestation et de refoulement sur la frontière algérienne, à peu près 95% des migrants irréguliers qui sont au Maroc viennent de la frontière algérienne, justement, c'est-à-dire et de la frontière sud de l'Algérie par rapport au Mali et au Niger. Alors, on a à peu près entre 13 et 15 000 personnes. Or, dans les 13 à 15 000 personnes, on sait absolument que plusieurs centaines, si ce n'est plusieurs milliers de migrants, sont arrêtés une, deux, trois, quatre fois, et j'ai rencontré personnellement des migrants qui ont été arrêtés puis refoulés vers l'Algérie à peu près 13-14 fois. Et donc, à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent, ils sont comptabilisés comme étant un nouveau migrant. Et donc, ça fait, si je puis dire, dans la matière, ça fait un stock, ça fait un nombre de migrants qui est très très loin de provoquer cette psychose sur le plan effectif.
Alors justement, c'est cela qui frappe, c'est que lors de chaque poussée de fièvre, comme on vient de le voir, ce sont les mesures sécuritaires et policières qui sont mises en avant, et qu'au niveau européen, finalement, il manque toujours une vraie politique concertée d'immigration.
Voilà. Je crois que ce qui s'est passé à Melilla depuis pratiquement la fin du mois d'août dernier, et qui s'est renforcé au cours de la dernière semaine, cela montre une chose à mon avis majeure aujourd'hui. D'abord, la première chose majeure, c'est celle de dire que les migrants irréguliers subsahariens qui sont aujourd'hui au Maroc n'ont aucune envie de rester au Maroc. Et donc, tous ceux qui travaillent sur l'idée qu'il faut que l'Afrique du Nord et le Maroc créent des centres de rétention, entre guillemets, sont dans l'erreur parce que ces gens-là, ces migrants subsahariens qui sont chassés par la misère et par l'instabilité et l'insécurité qui sévit un peu partout en Afrique subsaharienne, ces migrants-là ne sont pas là pour rester au Maghreb, ne sont pas là pour vivre, pour finir leur vie au Maroc. Ils sont là pour chercher d'autres possibilités de vie ailleurs, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième élément important, et cela peut-être on y reviendra dans la fin de cet entretien, c'est de dire que l'Espagne et le Maroc, avec tous les efforts qu'ils ont entrepris, on dira depuis le début de l'année 2003, ben ils ne sont pas parvenus à résoudre une problématique qui, dans tous les cas de figure, les dépasse. Ça dépasse le Maroc parce que le Maroc, ne l'oublions pas, c'est un pays en voie de développement, avec un PIB par habitant pratiquement 20 fois inférieur à celui de la France ou de l'Italie, qui n'a pas les moyens de contrôler une côte qui s'étend sur 3500 kilomètres et qui n'a pas les moyens de contrôler une frontière terrestre qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique Sud sur à peu près 3000 kilomètres. Donc le Maroc en est absolument incapable. Maintenant, le Maroc et l'Espagne à deux, avec toute la bonne volonté qu'ils ont montrée au cours des trois dernières années, et avec le système dont vous avez dû entendre parler, dont vos auditeurs ont dû entendre parler, qui s'appelle le CIV, système intégré de vigilance extérieure, qui a coûté à l'Espagne et à l'Europe à peu près 260 millions d'euros, ben le Maroc et l'Espagne ne sont pas en mesure seuls d'affronter une telle problématique. Et il y a absolument besoin de quelque chose de plus important, qui mette en commun, on dira une conférence internationale, qui mette face à face l'Union européenne dans son ensemble, le Maghreb également, l'Afrique du Nord, et l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire des pays aujourd'hui de départ de migration irrégulière.
Mais vous pensez que des effets d'annonce de renforcement des frontières ont pu créer ce mouvement d'assaut de masse avec au final un effet boule de neige ?
Justement, c'est pour cela que j'ai parlé d'une espèce de psychose à la limite créée de toutes pièces. C'est que ces événements se sont produits tout par hasard au moment où le Premier ministre français, Dominique de Villepin, était à Rabat lundi 26 et mardi 27 septembre. Et ces événements ont été encore plus dramatisés avec ce sommet maroco-espagnol qui s'est tenu à Séville. Et donc la concomitance entre deux événements politiques et ces événements dramatiques montre bien que quelque part il y a une volonté justement de monter la pression sur le terrain pour finalement accroître la pression sur le plan sécuritaire, accroître la pression sur le plan du contrôle frontalier, parce que tout de suite après, on a vu que les Espagnols ont déclaré que l'armée va prendre position autour de Stem Lilia, et puis les Marocains également ont mis sur la sellette 1000 personnes supplémentaires de forces de sécurité. Et puis évidemment, tout cela indique, comme vous venez de le dire, que l'option long terme, l'option développement économique et social, l'option lutte contre la misère en Afrique, l'option lutte contre les déficits de toutes sociaux et politiques et de droits de l'homme sur toute l'Afrique, ce qui sont les seules options qui, sur le long terme, permettraient de résoudre cette problématique à l'heure actuelle, ben cette option-là, elle est constamment marginalisée ou alors elle est mise sur le devant pour des raisons, on dira, de droits de l'homme, mais d'une façon extrêmement timide. Or, sur ce sujet, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui a à peu près 750 millions d'habitants, en l'an 2025, ben, cette population sera de 1,5 milliard de personnes. Ce seront tous des miséreux, en tous les cas à 80%. Ben, imaginez que si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre une telle problématique avec 750 millions d'habitants, comment on y arriverait dans 20 ans avec 1,5 milliard de personnes? Et est-ce que justement la communauté internationale et l'éthique internationale admettraient que demain, dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans un an, on puisse entourer l'ensemble de l'Afrique de barbelés et de fils électriques pour la rendre infranchissable pour ses habitants.
De fait, alors, face à ces mesures extrêmes du tout sécuritaire et du bouclage des frontières, certains spécialistes, justement, avancent l'hypothèse que, en ouvrant les frontières, il n'y aurait pas, finalement, cette vague, d'invasion.
Lorsque vous êtes en système économique libéral, la mobilité des capitaux et des biens et des services doit être accompagnée par la mobilité des personnes. Or, on admet la mobilité des capitaux et des biens et des services qui aujourd'hui accroît les déficits dans le Sud et on refuse la mobilité des personnes. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que jusqu'en le système des visas Schengen n'a été instauré qu'à partir de 1992 et un pays comme la France n'a commencé à introduire les visas qu'à partir de 1986. Or, avant 1992 et encore avant 1986, on ne voyait pas que les Africains ou les Maghrébins ou les Égyptiens ou les Bengalais allaient de partout pour s'installer à Rome, à Paris, à Marseille et ainsi de suite. Il n'y avait pas d'invasion parce que le sentiment de liberté était tel qu'on pouvait imaginer qu'on allait s'installer quelque part pour voir si on peut y vivre et qu'après, lorsqu'on constate qu'on ne peut pas vivre décemment et que les projets qu'on avait construits ne se sont pas réalisés, on va rentrer chez soi. Et donc, le caractère pernicieux des visas a fait que, d'un côté, il y a un élément interdit, et vous savez que lorsqu'on interdit quelque chose, d'abord, on ne se sent pas libre, et après, on a envie d'enfreindre cet interdit de quelque façon que ce soit, lorsqu'on est d'une façon ou d'une autre obligé de le faire. Cet interdit fait que des gens, lorsqu'ils sont à Paris ou à Londres ou à Rome ou à Naples, lorsqu'ils sont là, ils se disent « maintenant, j'y suis, j'y reste », parce que si je reviens chez moi et que demain, dans un mois ou dans un an, je décidais de revenir, je serai interdit de retour. Et donc, ça a créé les visas ont créé cet élément pernicieux qui fait que la volonté de rester de l'autre côté de la Méditerranée est devenue beaucoup plus forte chez une partie de la population. Donc la liberté est un élément éthique et politique fondamental et qu'il n'y a aucune raison qu'à travers la planète, il y ait ce partage entre deux catégories de personnes, ceux qui ont tout et qui ont en plus la liberté de se déplacer et ceux qui n'ont rien et qui en plus sont privés de la liberté de mouvement. Le problème est fondamentalement économique et comme il est fondamentalement économique, il est également fondamentalement politique.
Et laissons l'Espagne et le Maroc pour l'Italie et la Libye. Plus de 15 000 personnes, selon les derniers chiffres officiels, ont débarqué illégalement en Italie entre début janvier et fin septembre. La grande majorité des clandestins débarquent en Sicile, sur l'île de Lampedusa, et sont provisoirement accueillis dans un centre de rétention qui a pour le moins mauvaise réputation. Car au-delà des conditions d'hygiène, c'est aussi et surtout l'assistance juridique qui n'est pas assurée pour les demandes d'asile. Coordinatrice socialiste de la Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, l'eurodéputée française Martine Roux a récemment visité ce centre. Son rapport est franchement négatif et sans appel, d'autant que les autorités italiennes avaient pris le soin de vider le centre dans une volonté évidente de tronquer les cartes.
Nous savions, bien sûr, qu'une semaine avant, il y avait à peu près 400 personnes dans le centre. Nous avons été extrêmement surpris quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus que 11 personnes. En plus, c'était 11 personnes qui étaient là depuis plusieurs mois, alors que normalement, c'est un centre de transit où les personnes ne restent pas longtemps. Donc là, il y avait un problème, on s'est vraiment posé des questions et on nous a dit en fait qu'il y avait eu des ponts aériens depuis quelques jours qui avaient emmené toutes les personnes essentiellement dans un camp situé en Libye. Donc si vous voulez, à partir de là, on se dit s'il y a ce genre de choses, ça veut dire qu'on veut nous cacher des choses. Tout le monde était très gêné. Même d'ailleurs les députés italiens qui soutiennent le gouvernement actuel étaient gênés. Ils se sont rendus compte que c'était extrêmement problématique dans un camp, alors qu'on sait que c'est un camp où il y a beaucoup de monde, de voir 11 personnes. On a quand même vu la façon dont les personnes étaient reçues. C'est vraiment des conditions très spartiates. Ce sont des lits superposés, des bâtiments sans fenêtres. Des toilettes, il y en avait 12 pour tout le centre, alors vous imaginez, sans porte. L'eau des robinets, 20-25 robinets, c'était de l'eau salée, de l'eau de mer. On a demandé comment étaient reçues les femmes et les enfants. Là aussi, on a eu des réponses extrêmement vagues. On a posé des questions sur l'accès aux avocats. En fait, on a su qu'ils avaient une liste d'avocats, point, hein, à eux se débrouiller, à les joindre. Alors vous imaginez, bien sûr, la difficulté de la chose. En plus de ça, pour les recevoir, on nous a montré la salle où les avocats pouvaient les recevoir. Pas de table, pas de chaise. On s'est quand même rendu compte de la situation.
Alors, ni accès, vous n'avez pas eu accès au registre de présence,
non.
Ni au décret d'expulsion. Tout cela laisse supposer finalement qu'il y a des problèmes au niveau même des possibles demandeurs d'asile.
Moi, je pense qu'il y a des problèmes. Parce que, en règle générale, d'ailleurs, on nous a toujours parlé d'immigrés clandestins et pas de demandeurs d'asile. Ça serait bien le seul centre où il y a peu de demandeurs d'asile. Je veux dire, en général, les immigrés, ils savent très bien que le seul moyen pour eux d'avoir un espoir de rester, c'est de demander l'asile. Donc, de toute façon, c'est pas crédible. Quand ils nous disent on les renvoie immédiatement parce que ce ne sont pas des demandeurs d'asile, c'est invérifiable. Et donc, moi, je pense quand même qu'il y a une véritable atteinte aux droits de l'homme. Bien sûr qu'il n'y a pas que dans ce centre qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme. Hein. Cela dit aussi, c'est quand même le seul centre où les grandes ONG ne peuvent pas rentrer.
Finalement, ces jours-ci, M. Sarkozy aussi a cru bon de devoir se rendre en Libye. Que pensez-vous des possibles camps qui pourraient être établis déjà en amont, disons, côté Maghreb?
C'est pas pensable, une chose pareille. Les personnes demandent l'asile. Ils demandent l'asile dans les pays européens. Ce n'est pas aux pays tiers de faire le tri pour nous. Moi, je trouve que moralement, ce n'est pas acceptable une chose pareille. Et puis, il y a certains pays, notamment comme la Libye, qui n'a pas signé la Convention des droits de l'homme. C'est quand même assez incroyable quand on pense il y a quelques années que la Libye était un État mis au banc des nations et que maintenant, tout d'un coup, on va lui faire des courbettes parce que ils reprennent les immigrés clandestins dont l'Europe ne veut pas. Je trouve ça scandaleux.
Fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.